Vous allez entendre un reportage territoire sur Radio Eulenspiegel 91.8. Guy Fontaine, bonjour.
Bonjour.
Patrice Allopard, bonjour.
Bonjour Bruno.
Bienvenue dans les studios de Radio Eulenspiegel. Aujourd'hui, on va évoquer la mémoire de Jean Hollander, mineur de fond, une personne que tu as connue et qui t'a donné l'envie d'écrire ce livre et de ce livre, de le mettre en musique, de le mettre en spectacle.
Écrire ce livre, c'est reprendre 1000 pages manuscrites que Jean m'a confiées parce qu'il a tenu ses carnets de travail pendant ses 35 ans de fond. Moi, je l'ai connu, il lui est resté encore une petite dizaine d'années à faire au fond de la mine. Je l'ai connu, j'avais 12 ans. Et je l'ai vu travailler, je l'ai entendu me lire des extraits.
Apparemment, c'était un personnage.
Ah mon Dieu, c'est une des personnes qui m'ont aidé à structurer ma vie, bien sûr, et à comprendre ce qu'était le monde du travail, la dignité humaine, enfin, toutes sortes de valeurs liées à la mine, oui.
Tu éprouves de l'émotion quand tu en parles. On sent qu'il y a un vécu, qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je serais tenté de dire, j'ai le ressenti que c'était un peu ton maître à penser.
C'est certainement l'une des personnes qui m'ont aidé à vivre et qui m'ont aidé
à structurer.
Et même à structurer ma pensée, oui, bien sûr.
Jean Hollander, par lui-même, il n'est pas français d'origine, il est à la frontière de l'Ouzbékistan.
Ah, il vient d'ailleurs, Jean, vraiment, il vient d'ailleurs. Donc, il naît pendant la Révolution russe, ça commence en 17, mais il naît en 19, la Révolution est loin d'être terminée. Son père porte l'uniforme autrichien parce qu'il est polonais. La Pologne n'existe pas, elle est écartelée entre deux ou trois grands voisins, Allemagne, Autriche, Russie. Pendant la guerre de 14, le papa est fait prisonnier par l'armée russe. Les Russes pratiquent déjà le déplacement de population. Le voilà prisonnier dans un camp à la frontière de l'Ouzbékistan. Il y rencontre sa femme. Ils ont deux enfants. En 1919, l'Ouzbékistan ne peut plus supporter tout ce qui est européen, tout ce qui est blanc. Donc, pendant cette énorme bagarre entre les tsaristes et les communistes, et les soviétiques, les communistes russes, tout ce camp est déplacé, tout le monde se déplace par milliers pour aller vers l'ouest, la famille Hollander cherche à regagner la Pologne, etc. Je ne vais pas raconter le livre, je vais plutôt en lire des extraits. Ouais.
C'est un déplacement qui n'est pas facile. Il a des bâtons dans les roues, il essaie de passer par la Finlande pour rejoindre les États-Unis, et là ça se corse.
Ça se corse, oui, comme tu dis. Alors qu'il veut regagner les États-Unis, le voilà arrivé en Belgique. Et de Belgique, il n'y avait plus qu'un petit pas pour arriver dans cet Eldorado du point de vue du sous-sol, hein, qui était le Nord-Pas-de-Calais. Les richesses étaient là. Encore fallait-il se retrousser les manches et accepter de mourir à 51 ans en extrayant du charbon.
Une personne qu'on ne peut pas oublier, c'est Jules Mousson, qui est aussi une image du pays minier.
Souvenir de grève. Le berger, frère de ma grand-mère, qui en appelle l'eau, le saut naguère, parce qu'il a votre d'esprit, m'a conté ce curieux récit. Les carbonniers sont à greffe, nuit est calme aux alentours, mais ben avant qu'elle s'achève, les portes rindoltent d'Alcoron. Chez le patrouille, qu'en organise, chez mineur d'hôte, au signal impêché chez non-grévistes de Sradalfos, au travail, a bu comme volé, à Mnom, et je n'ai pas le temps de boire un café, et je m'en vais avec d'autres hommes vers une fosse, loin des cités. Longtemps, on chemine les voyettes à travers camps. Les feux des cheminées d'usine nous font des ombres de brigands. V'là le fosse enfin. V'là le carcasse des molettes, les chevaliers. À grève aussi. Bateau des gendarmes nous chasse et nous éparpille ainsi, à sa forme, à sa jury. Et jure la dure tant épu. Au rare nos grévés, ça crie feignard, roufion, vadu. Le boucan continue de pubelle. Sans trop d'arnicroche, toutefois, mémie. J'ai rien mangé depuis le vel. Et ça me vinte qui colle à ma dos. Je n'ai pas eu le soin de prendre une croûte busiant, pensant que ce serait tenu moins que ça. J'ai une mauvaise face, sans doute. Je suis tourné, ma cœur s'en va. Un méchant pousse sur un gosse vêtu de ses loques de mineurs galibots. Veut s'en dans le fosse. y arrête près de mi, par malheur. Je brise le cordiot de Smollett, qui porte attaché à ce cou, et je vole ses deux tartines complètes, puis je disparais. Comme un fou, cette action ne me paraît point dure. Dame délire, il me faut manger, je briquais son sandwich de fromage et de beurre, ce long nasta va me soulager. Derrière une ailleurs voisine, je mûche pour m'y manger tous ceux. Fiévreusement, j'ouvre les tartines. Qu'est-ce que je vois là, mon Dieu? Le drame m'apparaît comme un rêve, comme une douloureuse vision. L'enfant n'a vaut pour sa tchoubec que deux morceaux de carottes cuites rétendues sur du pain sec. Galibot, te vicore, j'espère. Au souvenir de ce volet de pain, pardonne, parce que su grand-père, pardonne, parce que j'avoue faim.
C'est toute la misère de ce monde du pays minier qui est exprimée là. C'est un peuple en révolte, mais c'est un peuple qui est éduqué. C'est loin d'être des illettrés, c'est loin d'être des imbéciles.
Mais il y a une culture ouvrière absolument magnifique. Et dans ce texte, on entend à la fois la révolte qui gronde, cette injustice sociale épouvantable. On entend aussi l'arrière-fond chrétien avec le pain qui n'est pas partagé, justement. On entend plein de choses. Et on les entend dans cette merveilleuse musique qu'est le Picard et que refuse, alors là, totalement Jean Hollander.
On sait pourquoi il le refuse. Ça l'amoindrit pour lui.
Pas du tout. C'est un mauvais marqueur social. Hein, tu dois parler un français parfait et de préférence sans accent si tu veux t'élever dans la vie. Et donc, le patois Picard ne passe pas la barrière de ses dents. Et ce n'est pas du mépris. Hein. C'est comme ça. C'est le comportement, d'ailleurs, de pas mal d'ouvriers immigrés. Et je pense, aujourd'hui encore.
1948, il y a une personne bien connue qui est au gouvernement, qui s'appelle Maurice Thorez, qui fait partie du Parti communiste, et qui demande aux mineurs de se retrousser les manches, et de travailler, et de produire.
Et la première descente de Jean Hollander, c'était quelque chose comme 1928 ou 1926 ou 1928, bon, je ne me rappelle plus la date exacte. Ça faisait déjà une paire d'années que Jean se retroussait les manches. Et voici comment il en parle. Je commençais comme galibot de fond à 12 ans et 3 mois. Au bout de la première semaine, j'avais mal partout. Descendre au fond, travailler au fond, je craignais ce travail de bagnard qui demandait des efforts continuels, de plus en plus grands, et cela sans limite. Déjà au départ, on était entassés dans une berline au gré des soubresauts de la cage qui nous descendait, actionnés par une machine à vapeur par moments. L'impression vertigineuse de tomber dans un gouffre, puis d'un seul coup, la machine se cale et s'arrête sur place. À cet instant, j'avais la sensation d'être projeté vers le haut. Il s'ensuivait une réaction viscérale atroce. Il m'est arrivé au début de courir à la sortie de la cage pour me cacher derrière un bois de soutènement et me soulager en vomissant. Ouais, je me cachais. De peur des quolibets des autres mineurs déjà aguerris. Pour ne pas être sujet de raillerie, j'avais peur du chantier, j'avais peur de mon travail à front. J'avais 12 ans, j'avais peur du porion qui ne savait pas parler. Il ne savait pas parler, le contremaître. Il hurlait de sa voix hideusement déformée. Son unique compétence était de gueuler, d'insulter, de proférer des menaces, de pousser les gens au maximum de leur capacité à coups d'injures grossières. Il est vrai qu'à cette époque, la haute autorité qui régissait les mines de Bruay, eh bien, à cette époque, la haute autorité ne demandait pas au contremaître de penser, elle ne demandait pas à des gardes-churmes de réfléchir, et encore moins de discuter, mais uniquement d'obéir aveuglément, de faire obéir les gens, et de leur extraire un maximum de leurs possibilités physiques. Le leitmotiv était de produire encore et encore plus. Donc, quand on lui demande en 48 de retrousser ses manches, hein, il a déjà 15 ans de production.
Ouais, il ne peut pas plus que plus.
Difficilement, difficilement.
Jean Hollander, que tu as connu personnellement, il t'a raconté des choses truculentes, il t'a évoqué des anecdotes de cette vie de mineur de fond.
C'est un homme du Nord aussi, hein. Le Nord n'est pas une région triste. Il raconte cet enfer épouvantable, hein, qu'il compare à l'enfer de Dante, parce que là aussi, hein, on s'imagine que le mineur de fond qui s'arrête au certificat d'études est bloqué intellectuellement, et qu'il y a une espèce
loin
de...
s'en faut.
Loin s'en faut. D'abord, il y a toute une culture ouvrière. Le travail en soi est une culture. Et puis, il y a le bibliobus qui passe, et puis il y a toutes sortes de choses. Hein. Et même les houillères elles-mêmes, d'ailleurs, ne sont pas, dans leur façon d'administrer, hostiles au développement culturel, au développement artistique, au développement sportif des gens qu'elles encadrent. Hein. Donc, le côté truculent, ben, il existe, bien sûr. Par exemple... dans son rapport, parce que peu à peu, Jean monte en grade, et dans son rapport avec les autres mineurs, il y a des anecdotes tout à fait truculentes, je peux ici en raconter une. Un moment vraiment très étonnant, la rencontre entre deux cultures, entre deux manières de travailler aussi. Jean, qui a été mineur, exploité, insulté par les porions, et qui se met à monter en grade en essayant justement de ne jamais manier l'insulte, en essayant de conduire humainement les hommes, et le vieux mineur de base qui regarde venir celui qu'il prend pour un blanc-bec. Voilà ce qui m'est arrivé un matin que j'effectuais ma tournée de quartier. Je surveillais la marche d'un convoyeur servant à évacuer les produits, c'est-à-dire le charbon abattu dans la taille, soit les gravats d'un creusement. J'arrive à une intersection, à l'endroit de la tête motrice. Cette tête motrice, c'est elle qui fait marcher la bande. Et comme elle demande un roulement continu, il faut éviter son embourbement, ce qui demande une surveillance. Alors, les carnets de travail de Jean, c'est plein, hein, de relevés comme ça. On sait tout techniquement sur la mine. Il faut acheter le livre.
La rencontre avec Patrice... Ah, c'est pas fini.
Non, là, je parle de la machine, j'arrive aux hommes. À cet effet, il y avait là un mineur âgé de 49 ans. Pour un mineur, c'est déjà le commencement de la vieillesse, affecté à cette tâche. Au premier coup d'œil, je vois que le rouleau de déversement tournait dans un amas de poussière, etc., etc. Donc, ça ne marchera jamais, cette tête de roulement. Après avoir salué le vieil ouvrier, je m'adresse poliment à lui. Voulez-vous nettoyer à fond cette tête motrice ? Je le vois prendre sa pelle et pensant que ma demande sera effectuée, je me dis qu'il n'a pas lieu de rester, donc je continue ma tournée, d'autant plus que j'avais un retard à combler. En fin de poste, je reviens à cette tête motrice. Sidéré, que vois-je ? Au lieu de nettoyer, l'ouvrier assis me regardait d'un air goguenard, ayant du mal à retenir sa jubilation. La tête motrice était submergée par des granulats et je sentais déjà un échauffement anormal des rouleaux. Devant une telle incongruité, devant un tel cynisme, je me suis retenu pour ne pas gueuler. Faisant un effort pour ne pas hurler, je lance « Dites, qu'est-ce qui se passe ?» Alors là, la leçon de ma vie. Parce que normalement, c'est Patrice qui fait les passages en ch'ti. Hein.
Si je voulais, et mieux je voulais pas.
Vous m'avez bien dit, si que je voulais nettoyer chez le tchète. Eh ben, mi, j'ai pas voulu, c'est ça. C'est pas plus difficile que ça.
La rencontre avec Patrice, la collaboration, elle se fait d'une évidence profonde. C'est le fruit du hasard? C'est une connaissance?
Ah, ce n'est certainement pas le fruit du hasard.
Hein, moi, je ne crois pas au hasard. Hein.
Ça, c'est une très, très vaste question. Ça mérite toute une émission.
2 heures d'émission.
Parce que Jacques Lacan dit il n'y a pas de hasard. Tu vois, là Jean Hollander aurait très bien pu nous parler de Jacques Lacan. C'était le genre de mineur de fond qui pouvait parler de Dostoïevski, de Dante et de Lacan. Voilà. Et donc, Patrice et moi, on s'est connus par la Villa Montnoir, Villa Marguerite-Yourcenar. Ensuite, on s'est connus par les bouquinales d'Hasbrouck. On est devenus amis, et chacun dans sa spécialité, mais toujours ce croisement culturel entre ce qui est savant et ce qui est populaire. Et un texte comme celui-là, ça méritait de la musique. Et autour de ce livre, Mémoire de Jean Hollander, mineur de fond, eh bien, peu à peu, il a greffé des interventions musicales qui sont plus que des charnières. Quoi. C'est un soutien de ce dialogue théâtral.
Tu t'es confié tout à l'heure, on peut dire aussi que ça a été une boisson locale, la bière qu'il faut boire avec modération, qui vous a réunis.
Ah, c'est autour d'une Trois-Monts. Tu racontes, Patrice ?
Oui, mes premières rencontres avec Guy avaient été strictement professionnelles et elles n'étaient pas forcément teintées d'une grande camaraderie.
On ne s'engueulait pas,
mais disons qu'il y avait chacun été en train de définir son
territoire.
Son territoire, oui. Et à un moment donné, on a plus fait confiance forcément aux gens qui nous employaient ou qui nous demandaient de faire ci ou ça. Et on s'est rencontrés sur la terrasse de la villa. C'est là qu'était la rencontre. On a collaboré avant. Enfin, on a travaillé ensemble parce qu'on était sur les mêmes, physiquement aux mêmes endroits, que ce soit au centre socio-éducatif ou que ce soit à la villa. C'est autour d'une Trois-Monts posée sur la terrasse qu'on s'est aperçu qu'on avait des sources communes. D'autant plus que c'est, on fait pas partie des mêmes chapelles, voilà, d'un point de vue peut-être politique, mais quelque part, on sait que il faut travailler ensemble. Voilà. Et effectivement, j'ai un grand plaisir à travailler sur les deux mamelles qui nourrissent ces projets de mémoire minière, c'est-à-dire Jean Hollander, un texte en français qui va être interprété par des comédiens avec une mise en espace, avec un vrai spectacle. Et puis le projet qui nous tient aussi à cœur, pas moins, pas plus, c'est le projet qu'on appelle pour le moment le Cabaret Mousseron, dont est extrait le Souvenir de grève, où on va, à partir de textes en Picard, une langue minoritaire qui est celle de mes grands-parents, essayer de structurer une histoire. Alors on a plein de textes, plein de sources. Il m'a fait découvrir Guy, notamment les textes rédigés par Lucien Suel. C'est la traduction de l'appel du 18 juin en Picard, c'est la chanson de
les
Brassens,
anarchistes de Ferret.
Ferret, les anarchistes, et André Ecquet, c'est vraiment de la culture populaire, mais de qualité. Donc on espère, d'une manière un petit peu parallèle, mais on va d'abord bosser Hollander, je pense, pouvoir produire à la rentrée de septembre, quelque part.
Pour mieux vous connaître, il y a un moment qui va se dérouler au mois de février, le 12,
absolument,
plus exactement, dans un lieu emblématique qui s'appelle le Marais du Livre et qui perdure depuis maintenant des années. Et c'est une très belle chose pour la culture.
Ah ben, là aussi, c'est, pour le coup, là, il n'y a vraiment pas de hasard. Quand Elisabeth Chambard et son mari ont accompagné l'aventure de la Villa Yourcenar, l'aventure des bouquinales, c'est tout à fait normal qu'on se retrouve autour des mémoires de Jean Hollander, mineur de fond.
On se donne rendez-vous le 12 février à Hasbrouck.
18h30.
À 18h30, au Marais du Livre.
Donc il y aura des lectures, des lectures d'extraits. On fera un tout petit peu de mousseron aussi, parce que quand on se voit, on y pense, quoi. Voilà, c'est notre... Et puis l'occasion d'acheter le bouquin.
Et de vous rencontrer, de pouvoir discuter.
Bien entendu.
Voilà.
Et de transmettre de la mémoire ouvrière.
Et puis on tiendra au courant des développements, notamment on espère pouvoir trouver des dates prochainement dans le territoire ici, puisqu'on a déjà deux perspectives, mais très loin, à Lanapoule et à Montauban, c'est dur.
Voilà.
Et au soleil.
La pièce de théâtre sera jouée cet été, ça s'appelle Mémoire de Jean Hollander, mineur de fond, ça a été acheté par Montauban et par Lanapoule, et on aimerait bien que les directeurs de salles du Nord-Pas-de-Calais s'intéresse à la mémoire ouvrière.
Je pense qu'on les a mis en appétit avec ce report.
Je pense aussi, Bruno.
Je vous dis à bientôt.
À bientôt, Magarchon.
Je suis très heureux que Radio Spiel, Radio de Territoire, ait eu la possibilité de vous donner la parole. Et je vous redis à nouveau, à bientôt.
Merci.
Salut, Bruno, merci.
Un enfant se promenait dans la ville à la recherche d'un vieux loup et d'un aigle perdu. À l'alcool de ses rêves, au réveil des estaminets. dans ces matins où la trompe de brume prenait la forme d'une bouteille que l'on jette à la mer. Il se perdait dans le brouillard des villes. Il était vagabond dans un pays que l'on dit de solitude. Seul, le vent était son ami. Seul, il connaissait le pouvoir du mot tristesse. Lui qui tenait conseil et discours avec les hiboux des marais rassemblés en cercle à la clairière. Il s'identifiait muet au peuple de l'obscurantisme et du silence. Il était cet oiseau qui s'inventait une mélopée pour un chien qui du monde s'en retirait. Un seul filet d'eau pour 10 maisons alignées. La rue alors était de révolte et s'enivrait de chansons. Les murs se graffitaient de plaies ouvrières quand ils annonçaient bravement grève illimitée. Les fabriques se sont tues. La rue est muette. À l'image de l'homme modelé dans les salons mondains. L'uniformisation prônée dans un pays de carton-pâte. Homme des cités, voyageur solitaire, la rue affichait misère. C'est l'intellectuel qui se plaint et c'est l'ouvrier qui crève. Le seul filet d'eau qui de la source dans sa course glissait lentement sur les joues des femmes. Les chants de revendication se traitent en conférence. Les pleurs exigent le silence. Un homme a créé la ligne d'errance dans la ville, accompagné du vieux loup et de l'aigle perdu. Devant le miroir de ses rêves, nul n'effacera jamais l'odeur des lessives des